Radio Okapi. Okapi. Okapi Service. Marcel Ngombo. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver ce matin dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Comment promouvoir l'emploi des jeunes diplômés congolais? Nous en parlons aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Okapi Service avec nos deux invités, David Pata, responsable de recrutement et formation à Sodeco et les Dijon en ligne. David Pata, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous aurons également un deuxième invité, Yves Gavan, expert en ressources humaines. Dans la deuxième partie de l'émission, comment valoriser les déchets plastiques en RDC? Ça sera bel et bien le sujet pour la deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Vous êtes intéressé, vous avez des questions, n'hésitez pas. Les numéros d'appel, c'est les 081-890-6094 ou encore les 099-706-6394. Merci à toutes, à tous ceux et à toutes celles qui ont déjà réagi sur la page Facebook Okapi Service. Dieudonné Nyangas est à la mise en nom de Tati Mapoko réalise et coordonne ce magazine présenté par Marcel Ngomombala sous la supervision de Jean-Marc Mataki. À toutes et à tous, bonne condition d'écoute de votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Okapi.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. En RDC, vous le savez certainement, chaque année, les universités et instituts supérieurs déversent sur les marchés d'emploi plusieurs diplômés. Cependant, les conditions de recrutement ne permettent pas à ces nombreux jeunes diplômés de trouver facilement de l'emploi. Pour faciliter l'employabilité de ces jeunes, des agences de placement professionnels se sont développées à travers des pays, mais le nombre de jeunes en quête de l'emploi ne cesse d'augmenter. Comment donc promouvoir l'emploi des jeunes diplômés congolais? On en parle dans ce nouveau numéro d'Okapi Service. Je rappelle le numéro d'appel si vous êtes intéressé. Composez les 081-890-6394. Vous pouvez également composer les 099-706-6394. Réagir aussi à l'adresse service@radio. Okapi.net. Nous avons déjà notre premier invité en ligne, David Pata. Je le disais, il est responsable de recrutement et formation à Sodeco, qui est bien entendu une agence de placement. David Pata, merci encore une fois d'avoir répondu, d'avoir accepté notre invitation pour aborder cette question sur comment promouvoir l'emploi de jeunes diplômés congolais. Alors, les problèmes sont réels. Il y a des milliers de jeunes diplômés qui sont déversés presque chaque année dans les marchés d'emploi, mais il se pose un problème au niveau du recrutement. Alors, comment vous êtes organisé au sein des agences de recrutement pour arriver à donner la chance à ces jeunes diplômés d'avoir du travail?
Ok, donc comme vous savez, le marché de l'emploi congolais est asymétrique. L'asymétrie signifie à ces niveaux qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de demandeurs d'emploi et peu d'offres d'emploi. Déjà, cette situation rend difficile, n'est-ce pas, les recrutements des jeunes. Et puis, en plus, vous savez que la plupart, n'est-ce pas, d'entreprises qui offrent des opportunités, ce sont des opportunités qui existent vraiment de l'expérience, ce qui fait que le critère, n'est-ce pas, qui devient comme le boulot d'étranglement, c'est l'expérience, et du coup, ces jeunes n'ont pas l'expérience, ne peuvent pas entrer. Une seule facilité, possibilité pour que ces jeunes entrent directement dans le marché de l'emploi, c'est de les faire bénéficier des stages professionnels. C'est l'unique possibilité qui donne la chance à ces jeunes-là. Or, comme vous savez également, les stages ne sont pas organisés facilement et par manque d'emploi, ce qui pose énormément de problèmes à ces niveaux-là. Donc, lorsque nous voulons, n'est-ce pas, promouvoir les jeunes, La première des choses, simplement, on organise des stages professionnels. Et à la suite des stages, les jeunes gens développent des compétences qu'il faut, qui vont leur permettre effectivement d'être à bon port lorsque un processus est engagé. Donc voilà, mais je vous informe que, comme vous le savez vous-même, que même ces stages-là ne sont pas toujours faciles à avoir parce que les emplois, il n'y en a vraiment pas assez. Donc la solution serait ici à ce niveau, de l'envisager au niveau macro une politique nationale des emplois des jeunes. Et c'est cette politique qui va forcément, n'est-ce pas, voir dans quels différents secteurs, comment créer les opportunités et comment faciliter les jeunes d'intégrer le marché professionnel.
Il y a un autre problème, David, c'est ce qu'affirme souvent le demandeur d'emploi, c'est ce qui est lié à l'expérience professionnelle. Et au niveau des agences, comment vous travaillez avec les entreprises qui recourent à vos services et surtout pour ce qui est de l'expérience professionnelle?
Oui, mais vous savez, l'expérience professionnelle fait partie des critères qui font l'objet, n'est-ce pas, de la présélection, de la préqualification des candidats. Et l'expérience est fixée sur base du poids factoriel du poste. C'est le poste qui définit le nombre d'années que la personne doit avoir ou pas. Si le poste, par exemple, un poste de directeur, un poste de chargé, un poste de chef de service, ces différents postes-là, vous ne pouvez pas prendre un directeur, quelqu'un qui vient fraîchement de l'université, parce qu'il doit devoir coordonner les travaux des autres, ce qui suppose que lui-même doit disposer des compétences avérées dans les domaines. Vous voyez ? Donc, c'est ce qui pose problème. Si le poste, si on recrute, n'est-ce pas, pour des postes que j'appelle des postes d'entrée, des postes des assistants, n'est-ce pas, dans différents domaines, les jeunes gens sont les bienvenus. Les postes de réceptionnistes et les jeunes gens sont bienvenus. Mais lorsqu'il faut recruter des postes hautement qualifiés où la personne doit coordonner, doit transférer les compétences, vous voyez, déjà ça pose problème. Donc ce n'est pas que le recruteur qui fixe par plaisir les critères expérience ou les entreprises. C'est simplement les postes qui exigent. Alors, une seule façon effectivement de lever cette option, c'est lorsque on veut recruter pour des postes, n'est-ce pas, d'entrée, hein, les postes de premier niveau, comme les postes des assistants, qui, après avoir été recrutés, vont devoir, n'est-ce pas, être coachés par des gens qui ont une expérience un peu plus avérée.
Ah, donc voilà, donc il y a tout de même une marge de manœuvre pour le jeune diplômé à espérer trouver de l'emploi, vous avez dit, pour de postes d'entrée. Et c'est pour souvent de postes liés au cadre qui posent problème, si j'ai bien compris.
Exactement. Donc, vous voyez, par exemple, ça doit effectivement dépendre peut-être d'une politique, comme j'ai dit, nationale, mais oui, une politique aussi maison, des entreprises. Vous avez vu, par exemple, les années passées, nous avons fait les recrutements de 1000 jeunes de l'administration publique. Et donc, vous voyez, par exemple, ces derniers temps, certaines institutions commencent à se donner la peine de recruter des jeunes professionnels. Ça, c'est une très bonne chose. Oui. C'est une façon, effectivement, de faciliter la tâche. Parce que quand on recrute le jeune, les critères deviennent encore un peu plus distincts que lorsqu'on recrute quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que quand on recrute quelqu'un qui a l'expérience, on mise sur les compétences. Or, les compétences, ce sont des capacités qui sont développées in situ, c'est-à-dire en lieu et place du travail, en exerçant un travail. Alors que le jeune qui quitte l'université, ils ont la connaissance du domaine, mais ils ont aussi des aptitudes naturelles. Ça, ils en ont. Mais malheureusement, ils n'ont pas encore la compétence, dans le vrai sens du mot dont je parle. Parce qu'on fait beaucoup de confusion entre compétences et les autres savoirs. Donc, voyez, lorsque on met les critères expérience, du coup, les jeunes n'en ont pas. De deux, c'est qu'au niveau des tests, ils vont échouer. Parce que les tests vont avoir un niveau, va exiger, n'est-ce pas, des capacités pratiques dont ils ne disposent pas. Alors que quand on recrute des jeunes, déjà, on fait sauter les verrous de l'expérience.
Oui.
Dans l'entretemps, les tests vont miser sur les aptitudes, généralement les psychotechniques qui sont consacrées. ce qui fait que on donne à tout le monde, à tous les jeunes, n'est-ce pas, la chance, peu importe les différents secteurs, mais tous les jeunes ont le même dimension, linguistique, maîtrise des mots, calcul, aptitude spatiale, etc. Vous voyez un peu. Donc, question, n'est-ce pas, ça dépend d'une politique nationale et également d'une politique maison. Donc, les entreprises, d'une telle façon, n'est-ce pas, d'encourager les jeunes, c'est de promouvoir d'abord les gens qui sont là, de dégager les postes d'entrée pour recruter les nouveaux jeunes professionnels qui ont encore du sang chaud et également qui sont capables également, qui sont disposés à apprendre et à devenir grands. Voilà. On a dit, petit poisson deviendra grand.
Voilà, David Pata, on vous garde en ligne, on revient à vous. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Nous avons Joseph qui nous appelle de Lubumbashi et Oscar Mirindi qui est à Bukavu. Bienvenue si vous venez de vous joindre à nous sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine de la vie au quotidien Okapi Service. Nous parlons de comment promouvoir l'emploi des jeunes diplômés congolais. Si vous êtes intéressé, je rappelle le numéro de contact, c'est le 081-890-63-94 ou encore les 099-706-63-94.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Joseph nous appelle de Lubumbashi. Bonjour Joseph.
Bonjour Radio Capi, bonjour aux auditeurs et à l'invité.
On écoute Joseph, quelle est votre question sur ce sujet, comment promouvoir l'emploi de jeunes diplômés congolais?
D'accord, merci beaucoup pour les thèmes, vraiment, et ça m'a inspiré beaucoup. Moi, je voulais traiter ce débat en deux volets. Hein. Premier volet, je voulais d'abord dire que les universités de notre pays Congo ne doivent plus continuer à produire les invendus. Ce n'est pas quand même normal. On donne des diplômes, on produit des diplômés, bon, qui ne servent presque à rien pour leur nation. Moi, je préférerais que les universités aussi prennent des initiatives de créer les emplois pour leurs jeunes diplômés. Vous voyez, comment ils peuvent y arriver? Je prends par exemple l'exemple de notre université de Lubumbashi, ici localement. On a plusieurs concessions qui sont privées. D'abord, il y a une concession qui est du côté Megastore. Cette concession, l'université avait loué ça à une entreprise chinoise. Cette entreprise là-bas faisait dans cette concession des projets de pisciculture, d'élevage et d'agriculture. Je pense que ça avait engagé beaucoup de jeunes qui traînaient dans la rue et ça générait beaucoup de recettes. À mon niveau, je préférerais que les universités aussi prennent des initiatives. Au lieu de vendre des concessions là-bas, puisqu'il y a d'autres concessions qui vendent comme ça des privés pour construire des maisons de location. Mais s'ils pouvaient peut-être initier dans la fin de l'année, ils savent déjà comment budgétiser un montant qui peuvent, avec les concessions qu'ils ont là-bas, créer les emplois. Par exemple, les activités d'agriculture, de pêche, d'élevage, là où ils auront comme main d'œuvre les jeunes diplômés qui sortent de leurs universités. Vous voyez, vous verrez que à chaque fois qu'ils commenceront à faire ces activités, et même les taux de chômage de ces jeunes vont être quand même décantés parce que la main d'œuvre viendra toujours de les former. Vous voyez. Et aussi les gouvernements congolais. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Le gouvernement congolais est comme un parent qui a les enfants, il engendre seulement les enfants, mais il les abandonne dans la rue sans les encadrer et ils vont se débrouiller eux-mêmes. Le gouvernement doit faire le quoi? Il doit avoir un montant de subvention. Il y a des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas subventionnés même à présent. Je pense que le gouvernement devait allouer tout un montant qui commencerait à subventionner les jeunes entrepreneurs capables de promouvoir ou de générer l'emploi aussi à d'autres jeunes qui n'ont pas d'emploi.
Merci. Oui.
Oui.
Ben, allez-y, à chuter, Joseph. Il faudra qu'on accorde également la parole à d'autres auditeurs. Allez-y, à votre conclusion, oui.
D'accord, je vais citer.
Oui.
Cette subvention là-bas doit être accédée à tous les jeunes et non par les classes politiques comme le voyons ici. Il y a des banques qui donnent pour accéder à ces montants de subvention, il faut que vous soyez dans une classe politique quelconque. Non, ça ne peut pas permettre des jeunes diplômés à se retrouver. Voilà au moins ce que j'avais à dire à ce sujet qui est capital pour la vie des jeunes.
Merci, voilà, merci Joseph d'avoir appelé de Lubumbashi. Oscar Mirindi est à Bukavu. Bonjour Oscar.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs.
On vous écoute Oscar.
Oui, bon, à part de contribution par rapport à ce sujet, je voulais, bon, j'ai réparti mes interventions en trois, donc j'ai trouvé la problématique en trois volets. C'est-à-dire, entre le premier, je peux citer le gouvernement congolais n'étant pas responsable. Parce que c'est lui qui nous a créé un système éducatif. Le système éducatif, lui, nous a donc une forme de les jeunes et qui doivent sortir des universités et trouver un emploi. Et malheureusement, les jeunes sortent des universités ne sachant pas où aller après leurs études. Et après, ça, les jeunes peuvent se débrouiller ci et là. Ils trouvent, actuellement, il y a une vague d'offres d'emploi qui se trouvent dans des ONG, on dirait. Mais les jeunes tentent toujours à postuler, mais ils ne sont jamais recrutés. Suite à quoi, parce que la politique du pays ne leur permet pas d'être recrutés. Il y a toujours les gens qui sont connus comme ayant déjà travaillé, qui ont des moyens, ils ont des parents qui sont déjà bien casés dans des grandes institutions, donc ne font que des recommandations. Il y a aussi cette question de, on nous demande 5 ans d'expérience, disons. Est-ce que les 5 ans qu'on a passé à l'université ne suffisent pas comme expérience, on dirait, dans un domaine quelconque? Et si l'expérience ne suffit pas, il faut aussi comprendre si on a besoin des expériences, comment les jeunes qui sortent de l'université auront le temps de travailler avant. Et pourtant, l'État n'a pas créé cet espace pour embaucher les jeunes diplômés. Et en deuxième lieu, il y a aussi la mauvaise volonté aux côtés des jeunes. Donc, les jeunes eux-mêmes n'ont pas pris conscience que c'est une situation qui les rend. Nous jeunes, on devrait parvenir à notre autosuffisance, quoi. Créer des petites entreprises pour nous-mêmes et pour oublier la question que l'État nous a délaissée. Il faudrait que les jeunes s'auto-prennent en charge.
Donc voilà, que le jeune se lance également dans l'entrepreneuriat, avoir des esprits de créativité. Merci Oscar Mirindi d'avoir appelé de Bukavu. À Kisangani, Anaclé est en ligne. Bonjour Anaclé. Anaclé, vous êtes en ligne depuis Kisangani? Il me semble que Anaclé n'est plus en ligne. On va, j'espère, le retrouver. Il est temps pour moi de lire cette réaction sur notre page Facebook de Patrice Moudéroa depuis à Bukavu. Il écrit ceci: au-delà du cours appris à l'université ou dans un institut supérieur, les jeunes doivent suivre différentes formations, avoir l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. David Pata, vous avez la parole. Comment réagissez-vous? Vous avez suivi tour à tour les auditeurs qui ont appelé de Kisangani, de Bukavu également et de Lubumbashi, et en tout cas ils sont revenus par rapport à ce que vous avez déjà dit pour ce qui est de l'expérience professionnelle. Et il y a ceux qui encouragent également le jeune à avoir l'esprit de créativité.
Ok, donc effectivement ils ont tout à fait raison, mais c'est qu'il ne faut pas oublier, l'université n'a pas la mission de créer des entreprises. La mission de l'université, c'est de former des personnes qualifiées dans des domaines spécifiques. C'est ça l'université, la mission de l'université. Et parmi, n'est-ce pas, les formations, vous avez des formations qui orientent, n'est-ce pas, vers la professionnalisation, mais également, vous avez des formations sur l'entrepreneuriat. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas tout le monde qui fait l'entrepreneuriat. Et il y a des domaines également où l'entrepreneuriat est quasiment difficile parce que les conditions d'abord, n'est-ce pas, des sociopolitiques ne sont pas réunis, n'est-ce pas, pour faciliter, n'est-ce pas, l'entrepreneur de pouvoir exceller dans les domaines. Ça aussi, c'est un autre problème. Pas et même quand vous allez même sous d'autres cieux, on parle de l'entrepreneuriat, bien sûr, les gens doivent entreprendre, mais les conditions, quand les conditions ne sont pas bonnes, les gens vont fuir, n'est-ce pas, leurs petites entreprises pour chercher des grandes entreprises, même sous d'autres cieux, on remarque bien que les gens sont plus employés que des entrepreneurs. Les entrepreneurs ne sont pas toujours nombreux aussi, parce que les conditions doivent être bien réunies pour faire l'entrepreneuriat. Vendre dans une petite boutique, c'est l'entrepreneuriat, bien sûr, mais c'est limité, parce que simplement, vous êtes devant des... Imaginez-vous, vous avez, n'est-ce pas, vos licences, et vous allez vendre dans une boutique, c'est une très bonne chose. Mais si la boutique n'arrive pas à se développer, comprenez, n'est-ce pas, là où vous allez arriver. Ça, c'est aussi effectivement un problème. Donc, comme je dis, on remarque également un autre facteur important qu'ils ont soulevé tantôt. Il y a les gaps entre la formation et les réalités professionnelles. Il faut admettre aujourd'hui, par exemple, que notre système d'enseignement est devenu presque statique, où vous avez, par exemple, des licenciés qui ne sont pas en mesure d'utiliser l'ordinateur. Vous avez parmi vous, n'est-ce pas, même certains professeurs qui ont du mal, effectivement, à utiliser des ordinateurs. On ne maîtrise pas certains logiciels de ce domaine. Ça, c'est un problème aussi. Mais aussi, même, l'enseignement est jusqu'à aujourd'hui encore trop universel. N'est-ce pas? Nous n'avons pas des enseignements très ciblés. Par exemple, aujourd'hui, dans nos entreprises, il n'y a pas un poste, en tout cas dans les entreprises, il n'y a pas un poste de licencié en économie ou d'économiste, à moins que ce soit dans des projets, il n'y en a pas aussi beaucoup. Mais par contre, dans les universités, dans les entreprises, vous trouvez un poste de comptable. Vous trouvez un poste de financier. Vous avez un poste de recruteur. Vous avez un poste de chargé de formation. Mais vous n'avez pas un poste de psychologue. Imaginez un poste de sociologue, il n'y en a pas. Il y a une explosion en termes de spécialisation. Nos universités devaient, nos programmes d'enseignement devaient également tendre vers des spécialisations. Malheureusement, nous sommes toujours dans beaucoup de théories. Et le vide fait que quand vous formez des gens descendent sur le terrain, ils ont du mal à s'adapter. C'est ça aussi le souci à ces niveaux. Donc, il faut encourager l'entrepreneuriat, bien sûr, mais quand vous encouragez l'entrepreneuriat, ça suppose qu'il faut aménager l'espace économique pour que les jeunes gens se retrouvent et leur faciliter la tâche. Faciliter également la tâche en termes de droit des crédits auprès des banques, mais également, il faut aussi créer des opportunités parce que l'État est le premier employeur, n'est-ce pas, de sa population.
Bon, il y a certains jeunes, certains intervenants qui l'ont souligné, hein, donc l'État a un rôle important à jouer. Vous l'avez également aussi parlé, il faut toute une politique dans les secteurs de l'emploi. On va accorder la parole à Bienvenue qui nous appelle de Bounia. Bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour, je m'appelle Mouda Kisaoumira, bienvenue, étudiant à l'université Shalom de Bounia.
On vous écoute, bienvenue.
Oui, moi j'aime contribuer un peu à propos de ce sujet sur deux points. Premièrement, c'est la finalité de notre enseignement qui est mal, c'est ce que je pense. Parce que dans notre pays, on n'encadre pas au niveau scolaire sur l'entrepreneuriat. Il y avait un auditeur qui est invité de Radio Capital qui avait dit quelque chose un jour qui est très important, d'intégrer les cours de l'entrepreneuriat, même au niveau de l'école primaire. Ça va essayer de diminuer aussi le chômage des jeunes après avoir obtenu leur diplôme. Et puis, deuxièmement, il y a aussi les jeunes qui sont aussi des entrepreneurs. Il y a le problème de notre gouvernement, de la multitude des taxes. Quelqu'un peut avoir l'idée de concevoir ne plus que petit boulot, mais avec notre gouvernement, avec beaucoup de taxes, quelqu'un n'arrive pas même à s'en sortir. Vous allez voir les jeunes qui entreprennent. D'un jour, après un mois, deux mois, il y a économie, il y a environnement, il y a quoi. Et puis juste penser que l'entrepreneur, les jeunes ont l'obligation de fermer et chercher le boulot dans des ONG, dans des organisations au service de l'État. Et puis notre l'État aussi ne retraite pas. Il y a des agents qui ont déjà travaillé, c'est 4 ans, il est au service, il a déjà 75 ans, 80 ans, mais il est toujours chef de service, il est inspecteur, il est au service. Bon, on ne sait pas avec ça quel jour les jeunes vont trouver même le service, ceux qui ont étudié dans l'administration, quel jour ils auront la place dans l'administration. Et puis ceux qui sont aussi des entrepreneurs, quel jour ils seront à mesure de se lancer dans l'entrepreneuriat, alors que notre gouvernement n'a pas aussi de la politique d'accompagner les jeunes entrepreneurs. C'était ça vraiment ma contribution.
Merci, bienvenue depuis Bounia, Mbandaka. Platini Mbombo est en ligne. Bonjour Platini.
Massa Ngombo, bonjour. Bonjour l'invité. Je salue tous les jeunes à travers les pays.
On vous écoute, Platini.
Voilà, merci beaucoup, Massa Ngombo, pour m'avoir accordé la parole. Je pense que cette émission, c'est une émission à caractère social, bien entendu. Je parle ici en tant que jeune congolais. Et aussi, je vais parler ici dans deux points. Le premier point, je voudrais parler d'une façon de nous, la jeunesse congolaise, nous sommes vraiment abandonnés sur le terrain. Comme l'ami a déjà dit, monsieur Marcel Mombo, nous les jeunes, je pense que nous tous, nous étions dans une barre de l'école, même au niveau de l'université. On a fait des filières, ce qui est très important. Mais vous allez constater, monsieur le journaliste, que dans nos activités, ou soit pour se lasser au niveau du boulot, ça pose un sérieux problème. Moi, je peux quand même vous rappeler, si ça fait maintenant 4 mois dans la ville de Mbandaka, à l'époque de Ebola ici, aussi Covid-19 ici à l'Équateur, vous allez constater qu'il y a des ONG internationaux qui arrivent au niveau de l'Est ici pour installer ici dans la ville de Mbandaka. Mais vous allez constater qu'on lâche ce qu'on appelle offre d'emploi. Le jeune gens qui quittent l'université à peine déterminée, l'université dépose leur dossier au niveau de nos différents ONG sur les places. Mais vous allez constater que le premier recrutement, on vous recrute. Mais à la fin du compte, vous êtes tous écartés. On vous demande de former 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, tout ça. Et si vous partez, à la fin du compte, encore, vous allez trouver que même les chauffeurs qu'on recherche font appel dans les petits frères au niveau du village, tout ça, pour venir travailler sur le terrain. Maintenant, la jeunesse congolaise semble-t-il être aussi indisponible. Même aussi le gouvernement qui a peine à être en place ici. Je pense que le premier ministre charge revient à lui. Il est jeune, il doit faire ce que le jeune pense. On est nombreux à travers le pays, mais souvent les jeunes souffrent sur le terrain. À peine a terminé le TD, ça fait maintenant 10 ans qu'il n'arrive même pas à trouver le travail, aller gauche à droite, pour sa sortie, ça pose un sérieux problème. Est-ce que il n'y a pas moyen de mettre un peu ce qu'on appelle le retraité? Parce que moi, je parle ici à l'Équateur comme à Mbandaka, je ne connais jamais un chef de division qui a au moins 35 ans. Non, il n'y en a pas. Il y a seulement les 80 ans, 75 ans, tout ça. Même un papa chef de division que je l'ai connu. Il me dit à tout moment que ah moi non, alors il a le gouvernement va le gouvernement à Moussa pour lundi. Alors moi je me pose beaucoup de questions qu'il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de cadres qui à peine est terminé au niveau de l'université n'arrive pas à assumer dans une fonction qui est un peu élevée. Là aussi le gouvernement qui est mis en place peut aussi avoir ça. Et la deuxième façon, je vais parler d'une façon de l'entrepreneuriat. Vous allez constater, Marcel Ngombo, donc un jeune gens comme moi, je peux prendre l'exemple, je peux créer mon emploi moi-même, soit un emploi de mettre un petit cabine, soit une boutique, tout ça. Mais à la fin de compte, vous êtes aussi étouffé. Il n'y a pas moyen de se développer. Hein, vous allez constater qu'il y a beaucoup de taxes qui arrivent auprès de toi. Donc, tu vois que non, le jeune congolais, pour se développer, pour être un peu dans un niveau un peu élevé, ça peut toujours être répondre. Parce que l'État congolais ne fait pas allusion qu'il y a beaucoup de jeunes congolais qui souffrent avec les pays, qui n'arrivent même pas à trouver les mots de
travail.
Alors, ce que je peux avoir l'idée sur l'invité, est-ce que l'invité peut nous expliquer la formation professionnalisée et aussi le mode d'emploi? Je voudrais avoir un peu la différence entre les deux.
Vous voulez avoir, s'il vous plaît, Platini, vous voulez avoir la différence entre quoi? J'ai pas bien compris.
Je voulais avoir la différence entre la formation professionnelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, à peine terminé l'INPP, mais je pense qu'il y a beaucoup de diplômes chômés au niveau de la maison. La formation professionnelle et aussi la pratique sur le terrain. Hein, donc
merci.
Je vais nous expliquer par rapport à ça.
Merci. Merci Platini Mbombo d'avoir appelé de Mbandaka. David Pata, vous avez la parole.
Ok, donc intégrer les cours d'entrepreneuriat à l'enseignement, c'est une très bonne chose. Ça existe déjà dans le programme de certaines filières. À l'école primaire, ça ne sera pas une mauvaise chose, ça sera une très bonne chose. Et puis aussi, comme nous avons dit, mais quand vous voulez encourager l'entrepreneuriat, il faut que l'environnement socio-économique soit assaini. C'est ce que j'avais dit, c'est ce qui soulève des aspects liés aux taxes, etc., et encourager les jeunes à avoir, n'est-ce pas, des crédits auprès des banques, etc. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de souligner le type de formation qui, en principe, devait donner des outils, donc de conférer des connaissances et des compétences aux jeunes gens. Comme vous savez, les universités, en principe, forment les concepteurs, théoriciens, donc les gens qui doivent être capables de conceptualiser, de modéliser, de trouver des solutions complexes, de trouver des solutions devant des problèmes complexes. Et les instituts supérieurs forment, ça c'est par rapport, n'est-ce pas, aux missions, forment ce que nous avons appelé des praticiens. Par exemple, quand vous avez l'ancienne formule de l'IEC, je crois juste aujourd'hui, quand vous formez un comptable, il est calé et il est prêt, n'est-ce pas, à fournir, n'est-ce pas, des tableaux comptables, etc., à faire des opérations multiples dans son domaine. Alors, mais maintenant, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tout, même les instituts supérieurs qui devaient former des techniciens sont devenus des universités, donc devaient former des concepteurs, des gens qui devaient être très forts dans la conceptualisation, etc., dans la théorie, etc. Ça devient également un problème sérieux. Or, le pays a besoin, n'est-ce pas, aussi des techniciens. Vous allez aller presque partout dans le monde. Ce qui fait avancer, ce sont les pays, ce sont des gens qui travaillent, qui sont des techniciens, des praticiens, etc. Des formations telles que la maçonnerie, l'électricité et d'autres, n'est-ce pas, des travaux manuels, devraient également être encouragées. Et déjà au niveau de l'école secondaire, certaines personnes pouvaient déjà être utiles à la nation. Hein? Et donc, ce genre de métiers, aujourd'hui, ne sont pas encouragés. Regardez même parmi les maçons, vous n'avez que des vieux. Il est difficile, ou voire impossible, d'avoir dans votre quartier des jeunes gens qui apprennent. C'est maintenant, c'est cette génération, maintenant, on constate qu'il y a certaines jeunes qui commencent à s'intéresser, n'est-ce pas, de la maçonnerie. Alors oui. Qu'à un moment donné, il n'y a plus que des vieux, etc. Donc, je crois que à un moment donné, il faut qu'il y ait une sorte de réforme, des réformes systématiques de notre système d'enseignement, et également encourager des métiers, pas des formations de métiers ou professionnalisantes. Oui. Ou déjà, à partir de l'école secondaire, vous avez des gens qui sont bien outillés en électricité, qui sont bien outillés en mécanique, bien outillés en maçonnerie, et leur trouver des occasions pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, commencer à travailler de manière indépendante aussi, etc. Donc voilà un peu, parce que tout le monde ne peut pas aller à l'université. Allez-y dans la plupart de nos universités, vous trouvez beaucoup de gens, mais quand vous les enseignez, vous vous rendez bien compte qu'ils n'ont pas les niveaux. N'est-ce pas? Ils n'ont pas les niveaux. Donc en réalité, nous sommes en train de donner des diplômes à certaines personnes qui ne sont pas à la hauteur et qui devraient peut-être déjà être utiles au niveau des graduats ou aussi, n'est-ce pas, de l'école primaire ou de l'école secondaire.
Voilà, merci beaucoup David Pata, merci d'avoir répondu à notre invitation pour contribuer à ces sujets sur comment promouvoir l'emploi des gens diplômés congolais. Merci encore une fois.
Je
rappelle que vous êtes responsable de recrutement et formation à CEDECO. C'est un plaisir de vous avoir au bout du fil. On espère vous retrouver prochainement.
Et professeur de l'université.
Merci David Pata. Voilà, comment promouvoir l'emploi des gens diplômés congolais? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de votre magazine de la vie au quotidien Capi Service. Si vous venez de vous rejoindre, et bienvenue sur la fréquence de la paix. Les numéros d'appel, c'est les 081-890-63-94 ou les 099-716-63-94.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, le deuxième invité pour ce sujet déjà en ligne, Yves Ngavan, vous êtes expert en ressources humaines, bonjour.
Bonjour Marcel.
Voilà, merci de nous rejoindre dans ce numéro du magazine Okapi Service où on parle de comment promouvoir l'emploi du jeune diplômé congolais. On a suivi tout à l'heure avec David Patard, responsable de recrutement et formation à Sodeco et professeur d'université qui a parlé, si j'ai bien compris, d'une certaine inadéquation, en tout cas pour ce qui est de la formation académique et le monde professionnel qui serait en tout cas la base de ce problème réel de l'accès à l'emploi des jeunes diplômés. Et votre commentaire là-dessus?
Oui, il faut dire que d'entrée de jeu, Marcel, ce problème de l'employabilité des jeunes Congolais devient encore plus épineux que la guerre à l'est du pays. Donc, on regrette malheureusement que toutes ces années, nous revenons sur ce sujet, mais il n'y a pas assez d'avancées considérables par rapport à la question du chômage de manière globale des jeunes Congolais. On a proposé plusieurs réflexions, mais qui demeurent pas suivies ni par le gens qui étaient censés le mettre en applicabilité, c'est-à-dire le ministère qui est en charge d'assurer une bonne politique de l'emploi, mais aussi au niveau des universités qui devraient prendre en compte certains éléments pour pouvoir effectivement améliorer le contenu de cours qu'ils proposent à nos étudiants. Donc, nous sommes fort malheureusement en train de constater que nous sommes en train d'avancer en reculant parce que plus les jours passent, plus de jeunes arrivent à avoir des diplômes pour aller droit au chômage. Et ce qui est inquiétant parce que cette jeunesse qui est censée prendre la relève demain, et pour prendre cette relève, cette jeunesse doit se préparer en conséquence aujourd'hui alors que ces jeunes sont à la maison. Ils sont en train de tourner les pouces, ils sont dans la distraction, ils sont dans les antivaleurs aujourd'hui avec des phénomènes comme Kuluna et tout. Donc nous sommes en train de scier progressivement la planche sur laquelle nous sommes tous assis, c'est-à-dire notre pays. Et demain, on aura des conséquences très néfastes. Donc il n'y a pas que diplôme emploi comme problème, mais il faut poser le problème de manière globale sur la politique générale de l'emploi en RDC. Quels sont les perspectives à mettre en place pour régler la question du chômage des jeunes, que ce soit diplômé ou pas, parce que n'oubliez pas, c'est pas tous les jeunes congolais qui ont la chance d'aller aux études pour avoir des diplômes. Il y a aussi des jeunes qui n'ont pas étudié, mais qui ont la force physique, qui ont le talent, qui ont ceci. Donc, quand on doit parler l'emploi, je pense qu'il faut tenir compte de toutes ces couches des populations pour pouvoir effectivement avoir une approche inclusive qui donne la chance à tout citoyen de pouvoir travailler.
Mais Yves Ngava, vous avez dit, en tout cas, vous avez déjà donné de propositions par rapport à ces problèmes de l'employabilité, comment s'en sortir pour donner la chance à des jeunes d'avoir du travail. Il faut pas baisser les bras et c'est toujours bon de rappeler, de continuer à marteler. Et quels sont, d'après vous, le priorité à mener dans ces secteurs de manière assez que, comme vous l'avez dit, qu'on puisse aller de l'avant plutôt que de continuer à reculer parce que le problème est toujours bel et bien là.
Oui, la première des choses, Marcel, nous devons agir au niveau de la politique de l'emploi dans notre pays.
Oui.
Nous ne cesserons de dire que jusqu'à la preuve du contraire, on n'a pas une politique sérieuse aujourd'hui qui nous démontre avec un plan référentiel des emplois, par exemple l'horizon 2030, de manière stratifiée, c'est-à-dire secteur par secteur. Combien d'emplois voulons-nous créer dans les secteurs de l'agriculture, dans les secteurs santé, dans les secteurs de construction à l'horizon 2030? Il n'y a pas un plan comme ça. Et c'est déjà très dangereux de naviguer dans un secteur aussi important sans un plan qui serait une sorte de boussole de référence en ce qui concerne le secteur de l'emploi. Il n'y a pas un plan sérieux, il n'y a pas une politique sérieuse qui donne l'envie au fait et l'orientation générale dans ces secteurs. Donc on doit commencer par là. Pour ce faire, nous avons toujours dit qu'il faut dépolitiser le secteur de l'emploi. Il faudra que le ministère qui arrive en charge de l'emploi puisse plus travailler de manière technique que de façon politique, parce qu'on représente une partie de la classe politique et on doit qu'obéir aux ordres établis. Au lieu de s'asseoir pour travailler techniquement et apporter des réponses idoines aux problèmes des Congolais. Ça, c'est de un. De deux, le système éducatif que nous ne cessons de décrier, c'est vrai. Hein, ce système, à un certain moment, ça a formé des cadres qui continuent à servir ces pays. Ça a montré quand même des preuves. Mais aujourd'hui, il faudra définir une nouvelle vision de notre système éducatif au regard des avancées que nous avons de par le monde avec la technologie et tout. Qu'est-ce que nous voulons quand nous formons un jeune Congolais? Est-ce que nous voulons seulement qu'il puisse avoir un diplôme ou nous voulons que ces jeunes, une fois qu'il a les diplômes, qu'ils soient aussi capables d'être utiles à la société, dans une entreprise, en faisant un travail avec des compétences réelles? Et si c'est le cas, donc, on doit définir les contenus qu'on doit donner à notre système éducatif. Il ne faut pas que ce soit seulement des théories et un papier à la fin qui s'appelle diplôme, alors que sur le plan de l'employabilité, sur le plan de compétitivité, sur le plan de compétences, c'est nul. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de centaines et des milliers de diplômés papier sans compétences réelles à faire face à une entreprise. Donc, il faudra donner un nouveau contenu à notre système éducatif qui doit être beaucoup plus professionnel aujourd'hui, plus orienté vers les compétences, plus orienté vers le métier, que d'avoir un système éducatif qui ne s'arrête que à délivrer les diplômes. Voilà la deuxième des choses. La troisième des choses, si vous permettez,
allez-y.
C'est que nous devons travailler sur la question de la préparation de nos jeunes après l'université. C'est-à-dire qu'il faut créer des sortes de passerelles entre les universités et les entreprises. Parce que les entreprises ont besoin de la main-d'œuvre qualifiante et la main-d'œuvre de qualité. Et les universités doivent former un capital humain capable d'aider les entreprises une fois qu'ils ont besoin de prendre facilement nos jeunes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La passerelle n'existe pas. L'Office national de l'emploi, qui devait jouer ses rôles de pont entre l'école et les entreprises pour dire à l'école, écoutez, dans la vie professionnelle, voici les éléments qu'ils préfèrent aujourd'hui avoir auprès des jeunes, et aux entreprises, voici les opportunités que les universités offrent aux jeunes pour qu'ils soient utiles dans vos entreprises, ne fonctionne pas. Ces mécanismes-là n'existent pas. Or, grâce à ces mécanismes, on pouvait bien travailler sur la préparation de stages de nos étudiants. Les universités savent déjà, ils ont un plan, qu'à la fin de chaque année, nous recevons des étudiants qui viendront de telle université avec telle capacité et qui pour améliorer telle chose dans tel secteur. Donc, le niveau de préparation est tellement faible et qui n'existe pas au point où les stages aujourd'hui, pour nous, ce sont des choses de façade. Les jeunes vont juste faire du tourisme aux entreprises et à la fin, ils ont une fiche signée et ils viennent, ils déposent un rapport de stage, ça se termine. La préparation va aussi au-delà de stage et de cette passerelle, mais aussi les formations professionnelles. Aujourd'hui, nous sommes experts du secteur. Nous encourageons des jeunes aujourd'hui à continuer à se faire former parce que la science évolue, les évolutions technologiques, les compétences deviennent de plus en plus aiguës. Il faudra encore se former et se former davantage pour être à même de tenir face à la compétitivité qui est ride. Et à la fin, ce que nous devons faire, c'est qu'il faut mettre en place le mécanisme d'accompagnement. Quand je parle de l'accompagnement, c'est qu'il y a des gens, au moment où on parle aujourd'hui, ils sont en train de travailler et d'autres sont fatigués de travailler, c'est-à-dire qu'ils doivent aller en retraite. Il faut donc définir une politique pour mettre les gens en retraite et de faire entrer les nouvelles têtes qui viennent de nos universités. Mais aussi dans l'encadrement, c'est pas tout le monde qui est censé être engagé quelque part. Il y a des gens qui ont aussi des capacités de créer.
Vous avez parlé de la retraite, il y a également un auditeur qui est revenu sur ça. Vous avez également fait allusion à l'Office national de l'emploi. Il y a également un auditeur sur notre page Facebook, ingénieur Pierre Moussafiri, qui a cherché vraiment à connaître le rôle de l'ONEM. On verra dans nos prochaines émissions comment on pourra associer l'ONEM pour ces sujets, sur comment promouvoir l'emploi des jeunes diplômés congolais. Mais laissez-moi rapidement vous lire cette réaction de Farial qui nous écrit depuis les Beaux. C'est un problème sérieux que l'État congolais doit prendre en compte car cette inadéquation est favorisée par l'État lui-même qui ne veut pas créer les conditions normales pouvant permettre aux jeunes congolais de trouver de l'emploi pour être autonomes. Combien de finalistes sont au chômage? Bientôt les universités vont encore lancer d'autres candidats au chômage et l'État congolais ne fait absolument rien. Voilà, ça c'était Farial Malassa qui nous a écrit depuis Il est beau. Donc on se rend compte que il est plus qu'un périlleux de vraiment de mener de réformes hein, dans ces secteurs-là, hein, Yves Gavan.
Oui, effectivement, des réformes, mais pas des réformes de nom, mais des réformes de fond. Parce qu'il y a quelques années, on a vu des réformes qui ont mené, par exemple, qu'on change les dénominations de cours. Civisme qui est devenu éducation à la citoyenneté, on a ajouté les années en médecine, et ainsi de suite. Mais ça n'a pas donné des résultats escomptés. Aujourd'hui, par exemple, l'État s'était déjà prononcé pour le système LMD, mais jusqu'aujourd'hui, quand vous allez dans nos universités, on n'applique pas le système LMD, alors que partout dans le monde, le système LMD a fait des preuves et montre que nous pouvons rendre notre enseignement un peu plus cohérent et plus efficace. C'est ce genre de réforme que nous voulons. Nous voulons des genre de réforme qui vont dans le sens de donner des objectifs clairs au système éducatif. On ne forme pas nos jeunes seulement pour avoir des diplômes et rester à la maison, mais nous formons nos jeunes pour qu'ils soient utiles à la société, de manière concrète. Parce que si on ne fait pas ce genre de réforme, mon cher Marcel, chaque année, comme nous le constatons, on aura des diplômés et qui seront au chômage. Et ça profite à qui ? Malheureusement, ça ne profite à personne, parce que cette jeunesse qui a de l'énergie, qui a l'envie, qui a le courage, qui a les rêves de travailler pour construire le pays, il se retrouve bloqué, empêché de travailler ou de réaliser les rêves. Du coup, le pays manque de ressources, une ressource humaine, une manne importante en termes de dividendes démographiques qui est orientée vers la juvénilisation chez nous. On a plus de jeunes que de vieux. Et ces jeunes sont tous au chômage. Comment voulez-vous qu'on puisse booster notre économie? Comment voulez-vous que nous puissions avancer sur le développement durable de notre pays? Donc, il faut donner des objectifs clairs aujourd'hui à notre système éducatif, qui doit devenir beaucoup plus professionnel, orienté vers les compétences, mais qui facilite effectivement à nos jeunes, une fois fini, qu'ils soient utiles à quelque chose, et non seulement à brandir des diplômes comme le font actuellement. Et ça, malheureusement, ça ne marche pas.
Mais Yves Ngavan, certaines personnes estiment que, même certains experts estiment que une autre alternative par rapport à cela, c'est lancer dans l'entrepreneuriat, avoir l'esprit de créativité. Mais il y a eu certains intervenants qui ont dit que là également, tout n'est pas facile.
Mais écoutez, j'ai souvent dit, j'ai créé un ouvrage, ça fait quelques années, Créer son entreprise sans argent, qui a connu un succès. C'est pour dire que j'ai souvent dit, celui qui est capable de décrocher un emploi, il sera encore incapable d'en créer pour lui-même. Parce que trouver de l'emploi, c'est encore un peu plus facile. Il y a déjà les postes qui est connus, on te demande juste de répondre aux exigences de ces postes et on t'accorde la possibilité de travailler. Mais de créer, c'est partir d'abord des idées. Tu pars des idées qui sont vagues pour que ça devienne des visions, ensuite les projets et réunir les ressources nécessaires pour commencer. C'est une démarche encore plus complexe. Donc, qu'on ne peut pas s'aventurer parce qu'on n'a pas trouvé un emploi et je veux maintenant créer. Non, ça demande de la préparation. Donc, il faut vraiment préparer quelqu'un. Si on veut aujourd'hui orienter nos jeunes à l'entrepreneuriat, ce n'est pas par des slogans, ce n'est pas par des simples théories, mais il faudra qu'on mette en place des politiques qui préparent, qui accompagnent, qui soutiennent ces entrepreneurs à tous les niveaux, que ce soit sur le plan individuel avec des formations, que ce soit au niveau des coachs, ils doivent être coachés, encadrés par des modèles, mais aussi au niveau de moyens, l'État doit assainir les secteurs, doit baliser la route en mettant en place, en mobilisant les autres partenaires pour mettre les moyens nécessaires et que l'entrepreneuriat soit une réalité et non seulement une théorie. C'est une bonne chose aujourd'hui si on peut avoir une génération de jeunes entrepreneurs, tel est même le vœu du chef de l'État qui a dit qu'il souhaite qu'à la fin de son mandat, qu'il forme une génération de jeunes entrepreneurs millionnaires. Donc, c'est possible si on a de la volonté, mais il faut y travailler suffisamment pour que cette volonté puisse se traduire à des actions concrètes, à des programmes sérieux et qui seront implémentés avec des acteurs compétents pour pouvoir rendre cette vision réalisable.
Et Yves Ngavan, vous supposez que le problème va demeurer pendant longtemps parce que David Patta, qui est expert responsable de recrutement et formation à Sodeco, une agence de placement, il a évoqué le fait que l'équation est toujours celle-là et puis aussi longtemps que l'équation va demeurer celle-là, c'est-à-dire peu d'opportunités d'emploi, mais beaucoup de demandeurs d'emploi, le problème va rester pendant.
Oui, mais effectivement, c'est comme j'ai comparé la situation de chômage en RDC, comme la situation de guerre à l'Est qui a fait des décennies. Et c'est, nous sommes pratiquement dans le même circuit, au fait. Le problème est là, on revient sur les propositions, il y a des choses qui se disent, il y a des réflexions, mais ça n'avance pas, ça n'avance pas et ça ne bouge pas. On ne fait que changer des ministres des emplois. Il y a l'autre qui venait de passer. Et je sais pas son bilan. Il faut, vous, les journalistes, vous pouvez essayer de questionner. L'autre qui va entrer, nous risquerons de revenir sur les mêmes choses. On nous présente jamais une politique générale sérieuse des emplois. Si ça existe, mais qu'ils nous le brandissent, qu'ils puissent le vulgariser. Mais à mon avis, je n'ai jamais vu un programme sérieux qui donne de manière stratifiée, secteur par secteur, les emplois que nous allons créer dans les 5-10 ans pour demander, donner aux universités la chance de préparer des jeunes à ces éventualités. Donc c'est regrettable aujourd'hui de constater que le problème est là. Il y a des jeunes qui sont là, qui finissent les universités, qui n'ont pas d'emploi, mais on ne sent pas une volonté de faire bouger des choses dans les secteurs, alors que nous avons fait des études qui démontrent que même à partir d'une mangue, on peut créer 10 000 emplois. Donc, il y a toutes les opportunités. C'est regrettable de voir que le pays tel que la RDC, sur le plan géostratégique, avec toutes les ressources que nous avons, avec la démographie juvénile que nous avons, on ne pouvait pas avoir un taux de chômage aussi élevé. Parce qu'on a tout pour créer des emplois. On a le facteur naturel, on a le facteur humain, on a de l'espace, on a des frontières, on a 9 pays voisins. Donc, on a plus de 80 millions d'habitants, on a des terres arables. Donc, mais qu'est-ce qui manque pour que nous puissions générer des emplois? L'article 36 de notre Constitution fait de l'emploi une obligation et un devoir pour tout citoyen. Et ce sont des choses qu'il faut appliquer. Mais qu'est-ce qui manque finalement? Je pense que ce qui manque, c'est un leadership. Un leadership efficace et qui va faire booster ces secteurs et de redonner de l'emploi de masse à la population congolaise. Parce que nous avons tout, mais malheureusement, rien n'avance dans ce sens.
Nous avons tout, malheureusement, rien n'avance dans ce sens. On va conclure avec ces mots de notre invité Yves Ngavan, qui est expert en ressources humaines, avec qui on a parlé de ces sujets sur comment promouvoir l'emploi des jeunes diplômés congolais. Merci Yves Ngavan, en tout cas, d'avoir accepté d'apporter votre contribution à ce magazine Okapi Service, notamment sur ce sujet, comment promouvoir l'emploi des jeunes diplômés congolais. On espère vous retrouver prochainement. Merci et bonne journée.
Merci Marcel, bonne journée à toi. Oh.